Bienvenue sur le podcast Nées en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessibles des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leurs récits d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances.
On était dans les deux derniers mois, à peu près, de grossesse, où j'ai passé beaucoup de temps avec Pimprenelle, à apprendre à se connaître, ce qui était vraiment très chouette. Vraiment chouette. J'ai passé du temps avec Amandine aussi, qui était ma doula pour le postpartum. On avait cuisiné des bons plats avec toutes les deux pour mettre dans le congélateur. J'avais un voyage en Grèce pour aller voir ma famille, qui était aussi très enrichissant. Un peu difficile, parce que j'ai abordé tous les sujets de l'enfantement avec mon père et ma maman, je sentais que je voulais être honnête avec eux, mais forcément, c'était des discussions assez délicates, assez longues, donc j'ai dû un petit peu reproduire les mêmes discussions que j'avais avec mon homme, etc., le même cheminement avec eux. Mais à la fin, j'ai part de ce voyage en Grèce rempli de soleil, avec les meilleurs vœux de la part de ma maman et de mon papa qui comprenaient tout à fait ma démarche. Ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée d'ailleurs, parce que je ne pensais pas qu'ils allaient faire ce chemin avec moi. Je pensais que j'allais partir avec un peu plus de froid, plus de distance, qu'ils allaient me dire qu'ils ont quand même peur et qu'ils n'allaient pas forcément comprendre pourquoi je voulais vivre mon enfantement comme ça, mais c'était pas du tout le cas finalement, donc vraiment chapeau, je suis fière d'eux. Je suis fière de nous et de ce qu'on a pu construire en si peu de jours finalement. Et j'avais plein de chouettes projets. Pour ces deux derniers mois, j'avais des séances photos, ma blessing. Je voyais toujours mon acupunctrice, mon ostéo. J'ai fait du watsu. J'ai rencontré des femmes. Il y avait quelques rencontres du village, etc. Donc, il y avait plein de moments pour se faire plaisir. Et ça, c'était le principal de ces deux derniers mois. Alors que j'avais plein de mois derrière moi où c'était assez tendu, mais là c'était vraiment se faire du bien et se faire le plein d'ocytocine. C'était le but, en gros. J'ai aussi arrêté le boulot, donc j'ai eu 2 mois sans travailler, ce qui était merveilleux. C'était un vrai cadeau. Je pense que toutes les femmes doivent avoir un minimum de ça. Je dis vraiment un minimum de ça. Et je préparais plutôt la pièce d'accouchement. J'avais des feuilles que je coloriais, j'avais des mantras. C'était vraiment une pièce qui est devenue un hôtel géant. Je pense que Bart, quand il rentrait dedans, il avait un peu le tournis. Enfin, il y avait des objets partout, des symboles partout. Enfin, c'était vraiment une pièce hyper chargée en énergie. Et c'est là où on a mis aussi la piscine d'accouchement qu'on avait louée, qu'on a reçue à 36 semaines. Et c'était l'endroit où j'allais pour méditer, écrire dans mon cahier mes pensées, parler à mon bébé, etc. Donc c'était vraiment une pièce consacrée à ça. Et donc ces deux derniers mois sont passés d'une manière très fluide, j'ai envie de dire. Y a eu un moment de stress vers 36 semaines parce qu'il y avait une histoire en France avec un enfant, enfin deux enfants saisis de leur famille à cause d'un enfantement libre, et ça m'avait fait peur. Et je suis rentrée dans des questionnements, forcément, si j'allais avoir des problèmes légaux. J'ai été chercher la loi, quels sont les droits par rapport à ça, qui peut être présent, les conséquences, etc. Donc j'ai un peu interrogé autour de moi des personnes qui s'y connaissaient un petit peu pour savoir où j'en suis. J'ai même considéré, j'ai même demandé à mon bébé s'il fallait que j'aille faire une échographie pour exister quelque part, si ça valait la peine de le faire, juste pour nous protéger, pour être sûr qu'on ne va pas être séparés à la naissance, qu'il n'allait pas nous arriver un truc aussi horrible que ça. Et finalement, une semaine après, ma réponse était assez claire. Mon bébé me disait que non, maman, tout va bien, j'ai pas besoin de ça, ça va bien se passer. Et on avait entre-temps aussi la certitude par rapport aux papiers. On avait une sage-femme qui était d'accord de venir au moins signer les papiers de naissance après la naissance, la délivrance du placenta, etc. Et elle allait signer qu'elle n'a pas eu le temps d'arriver. Donc ça me rassurait quelque part d'avoir ça, même si en principe j'aurais aimé pouvoir exprimer mes choix à 100% à la commune et partout et dire que non, en fait c'était voulu qu'il n'y ait pas une sage-femme, et c'était pas seulement voulu mais y avait l'intention derrière, le savoir derrière, et voilà. Mais donc, là-dedans, dans ce choix-là, je pourrais avoir un petit peu de protection si jamais, pour ne pas avoir trop de questions par rapport à « mais pourquoi il n'y avait que le papa, etc. etc. » Et donc, la piscine s'installe, le lieu s'installe, et moi, je continue à vivre mes journées un peu de manière... C'était assez léger. On me disait toujours que tu vas voir à la fin de grossesse, ça va être hyper lourd, tu vas en avoir marre de porter ce bébé, tu vas dormir de moins en moins bien. Et je m'attendais à avoir ces ennuis-là et c'est jamais venu chez moi. J'avais pas pris énormément de poids, c'est peut-être à cause de ça aussi que je me sentais bien. Mais j'ai continué à faire mon sport, j'ai continué à me faire du bien, j'ai continué à me faire du vélo. Et la seule chose que j'évitais sur Bruxelles, c'était les pavés sur le vélo. Mmh. Parce que là, je sentais vraiment que mon utérus était en train de vibrer dedans. Et là, je me disais non, je ne peux vraiment pas passer par les pavés. Mais en dehors de ça, tout allait bien. Et puis... Je sentais quelque part, ma date prévue d'accouchement, c'était le 18 juillet, ce qui était prévu d'être un bébé cancer. Mais je sentais quelque part que ça allait être un bébé lion. Une fille aussi, d'ailleurs, on ne connaissait pas le sexe, on avait cette discussion avec mon homme. Un sujet aussi qui nous prenait assez de temps, c'était le sujet du prénom. On était sûr qu'on allait donner le nom de famille de mon homme, donc un nom de famille flamand, on va dire. Et on voulait du coup un prénom grec pour que ça représente ses deux racines. Mais là, bonne chance, des prénoms grecs qui ont des magnifiques significations, mais qui se prononcent très difficilement. Je revenais avec des propositions de prénoms pour que mon homme... me disent que ça lui faisait penser à des maladies sexuelles ou il avait toujours ça lui faisait penser à la personne qu'il détestait le plus quand il était à l'école, enfin il avait toujours quelque chose de mauvais à dire mais jamais une proposition une contre-proposition. Donc on était nulle part niveau prénom, ça me stressait un tout petit peu, même si je me disais on a le temps, ça va venir, peut-être qu'on le saura quand on verra notre bébé. Et j'avais pas non plus envie d'avoir un prénom hyper fixe parce que je me disais c'est quand même une personne qu'on doit rencontrer et si ça match pas, on trouvera bien autre chose. Mais cette discussion du prénom, on l'avait beaucoup. Et puis en dehors de ça, il y avait aussi un gros changement alimentaire pour moi. Et donc j'étais végétarienne, végane pendant 17 ans. Et là, à cette époque-là, j'ai décidé de commencer à consommer des produits animaliers, de la viande, des organes. J'ai commencé par le bouillon. C'est un sujet auquel je me suis beaucoup intéressée. Et j'avais compris que je ne me nourrissais pas bien dans le passé et que j'avais envie de faire mieux pour mon bébé et pour mon corps en postpartum. J'étais convaincue qu'il fallait que je change quelque chose, mais ce n'était pas du tout évident pour moi parce que je n'avais pas cet appel vers cette nourriture. Comme on entend souvent une femme enceinte qui d'un coup a envie d'un steak ou autre chose, moi ce n'était pas du tout ça. C'était plus une décision par rapport à, enfin pour ma santé, pour la santé de mon bébé. Et donc du coup, je me suis lancée avec l'aide notamment d'Amandine de Pamprenelle qui m'a apporté des bouillons à essayer. Ou je ne sais pas pourquoi, je pensais que le bouillon, ça allait être la chose la plus facile à consommer. Je me battais devant cette tasse de bouillon, c'était plus fort que moi, j'avais envie de vomir, je voulais pas du tout le boire, je trouvais ça hyper fort et tout. Elles étaient toutes les deux tellement douces avec moi. Elles cherchaient d'autres moyens de me faire consommer des bonnes choses, mais sans que ça goûte beaucoup. Genre cachées dans des gros smoothies ou dans les boulettes, un peu de foie, elles essayaient de me faire manger tout ça, mais sans que ça se goûte. Et petit à petit, j'ai pu trouver quelques aliments que j'aimais bien, des produits laitiers ou lait cru, etc. Et je commençais à me dire, ok, j'ai fait un truc bien pour moi. Et c'est pas un gros échec, parce que je me sentais vraiment comme un gros échec au début, de ne pas pouvoir consommer tout ça. Et voilà, je pense que c'était vraiment les gros sujets de la fin de grossesse. Et donc, vers la fin, je me sens toujours hyper bien. Il fait beau, j'adore montrer mon ventre qui est bien rond finalement. Ça a pris du temps, mais il est là. J'ai un bébé qui adore quand je bouge, qui est tout calme quand je bouge, et la nuit c'est la grosse fête. Mais je dors toujours bien, je me sens bien, je me sens belle. J'ai pas du tout envie d'enfanter, pas parce que ça me fait peur, mais parce que j'ai envie que cette grossesse dure une éternité. Si je pourrais être enceinte toute ma vie, mais vraiment, c'était magnifique. J'apprécie chaque moment que j'ai partagé avec elle dans mon ventre, en fait. Et par rapport aux dates, enfin, je me souviens d'avoir eu l'instant me disait que ça allait être un bébé qui va naître plus tard. Aussi, dans les statistiques, on dit souvent que les premiers bébés, ils prennent leur temps à arriver. Et moi, comme j'avais aucune contrainte par rapport à ça, pas de sage-femme qui allait me quitter, ni quelqu'un qui allait vraiment me poser la question après 42 semaines. Je ne comptais même pas vraiment, donc je n'avais pas trop annoncé ces dates autour de moi parce que je ne voulais pas de pression extérieure sans raison. On l'avait communiqué un petit peu avec ma famille, mais vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est une date un peu flou comme ça, et on verra quand bébé va arriver. Donc j'ai pas senti cette pression de « Allez, t'es toujours enceinte, etc. » C'était plus quand j'allais à la salle de sport, j'avoue. Après 40 semaines, du coup, à chaque fois quand j'arrivais, les gens me regardaient avec un peu de joie et un peu de peur dans les yeux. « T'es toujours là, toi. Tu vas faire encore une séance de sport. » Mais tant que je me sentais bien le matin, je me réveillais, je demandais à mon bébé comment elle allait, je vérifiais avec mon corps, et si tout allait bien, je continuais ma journée comme avant. Le congélateur était rempli, la piscine était là, et j'avais écrit aussi une lettre à 40 semaines pour lui dire qu'elle pouvait venir, qu'on était prêts, mais que si elle était bien là où elle était, il n'y avait aucun problème. Et puis les jours passaient, et je me souviens que c'était juste magique de me réveiller et de ne pas savoir si ça allait être le jour où j'allais la rencontrer. Je ne savais pas comment ça allait commencer pour moi, parce qu'on entend que parfois on perce les os et puis ça se démarre. Je n'avais pas forcément des contractions très différentes. J'avais une poche légèrement fissurée les deux, trois dernières semaines. Je ne sais plus exactement. Mais ça ne m'inquiétait pas beaucoup. Parce que de un, je veillais que je n'ai pas de fièvre. Et de deux, c'était pas, je ne perdais pas beaucoup de liquide. C'était un peu, et c'était pas pendant l'effort, donc je savais que c'était peut-être fissuré quelque part plus vers le haut et qu'une des deux membranes n'est pas complètement rompue, c'était clair pour moi, donc tout allait bien par rapport à ça. Et vers, je pense, une semaine, non, 4-5 jours après ma date prévue d'accouchement, mon homme avait une invitation pour aller à un barbecue où... C'était un gros événement où il voulait vraiment être, mais il ne savait pas si on allait avoir bébé avant ou pas. Et moi, je lui disais, bah, t'inquiète pas, tu peux réserver, je pense que tu vas pouvoir y aller. Finalement, il a pu y aller. Et ça, c'était à 40 semaines et 5 jours. Lui, il partait au barbecue, c'était un barbecue avec une centaine de personnes, tous anti-Covid. Il y avait des gens, des scientifiques, etc., qui parlaient de ce sujet, des vaccins, quelqu'un qui était venu des États-Unis. C'est un groupe, donc mon homme fait partie d'un groupe d'investissement, mais il parle beaucoup aussi de la société, de la psychologie, de la géopolitique, etc., etc. Et ça, c'était un gros événement pour lui. Il voulait pour une dernière fois voir ses amis là-dedans. Et donc le matin, il part. Moi, je vais au sport et on s'était mis d'accord qu'il allait venir me chercher l'après-midi parce que je voulais pas passer toute la journée au barbecue. Je voulais un peu avoir du temps pour moi. Et après ma séance du sport ce matin, je rentre à la maison, tout va bien. Mais je remarque, quand j'ai fait pipi, qu'il y a des traces de sang. Et je savais que quand on perd le bouchon muqueux, moi je pensais que c'était l'entièreté du bouchon muqueux quand j'ai vu ces petites traces de sang, mais pas du tout ça, finalement, que peut-être le travail allait commencer. Je vois ça, je prends une dernière vidéo de moi avant de l'annoncer à mon homme qu'on allait rencontrer bébé dans les jours qui viennent. Je voulais avoir ce dernier souvenir de mon ventre parce que je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Je vais prendre une douche et j'envoie un message à mon homme pour lui dire qu'il pourrait venir me chercher pour aller au barbecue, mais que... j'allais peut-être commencer le pré-travail. Je commençais à avoir quelques contractions à ce moment-là, mais rien de très intense ou douloureux. Et donc, Bart arrive, il est tout excité par rapport aux gens qu'il rencontre là-bas. Je monte dans la voiture, il conduit un peu comme un fou. Moi, je commence à avoir des contractions, pas régulières, mais j'en ai de temps en temps et je les sens. Lui, il me raconte sa journée comme si de rien n'était. Je me souviens, à un moment donné, je l'arrête. Je lui dis, il y a un truc qui est en train de se passer. Je la joue au cool et tout, mais on est quand même... on va vers l'accouchement, là. Je ne sais pas si tu as compris. Et je pense que c'était là le moment où elle s'est dit, ah, ok, c'est sérieux, en fait. On s'était mis d'accord qu'on allait passer le plus longtemps possible vivre notre vie, si c'était pas nécessaire qu'on rentre à la maison, qu'on rentre dans notre bulle, qu'on allait continuer à faire ce qui était possible à faire. Donc voilà, on a continué à faire ça. Et puis on arrive au barbecue, et moi, il y a une centaine de personnes. J'y connais peut-être 3-4 des amis proches de Bart. C'est un moment assez vulnérable pour moi, j'avoue. Et je me souviens que j'avais quand même pas un ventre qui était aussi gros, donc les gens ils me disaient pas, enfin ils me disaient il est prévu pour quand ce bébé. Et Bart à côté de moi, ah peut-être pour aujourd'hui. Elle a perdu son bouchon muqueux. Tout le monde disait la file pour manger, genre. Bon appétit, ma femme vient de perdre son bouchon muqueux. Donc là, je me fais, mais dis-toi, tu vas pas le partager avec tout le monde. Enfin, je voulais pas avoir des questions en plus. Je voulais garder quand même cette information pour nous, même si j'étais en train de. Enfin, j'étais vraiment en pré-travail, mais je voulais pas non plus le partager avec tout le monde. Et petit à petit, j'ai vu les réactions des gens qui étaient hyper positives. Je me retrouve à manger. À côté de deux médecins qui se faisaient la blague, qui se demandaient « Ah, toi, t'as perdu c'est quoi, la licence ?»
Oui.
Pendant combien de temps ? Pendant le Covid. Et ils rigolaient. L'un disait « Pendant 3 mois », l'autre disait « Ah, pour moi, c'était 6 mois parce que j'ai jamais voulu mettre de masque. » Donc, c'était vraiment une ambiance hyper décontractée. Apparemment, il y a un troisième médecin hyper connu en Flandre devant moi qui m'a dit qu'il ne savait pas que j'étais en pré-travail, mais il m'a dit « Le jour où vous allez accoucher, rappelez-vous des deux choses. Jamais coucher sur le dos et vous n'avez pas besoin de gynéco. » Donc, j'étais là assez étonnée de ce groupe de personnes qui avaient à peu près les mêmes idées que nous. Ils étaient tous plus âgés. Donc j'ai eu plein de mamans qui me disaient « J'aurais aimé faire autrement. J'ai pris le chemin classique. » Donc quand on a commencé à raconter un petit peu notre histoire, je faisais attention toujours. Je disais qu'on allait accoucher à la maison, enfanter à la maison. Mais pas toute l'histoire, qu'on n'avait pas de sage-femme. Je me protégeais un petit peu quand même. Mais petit à petit, je me sentis bien de partager plus de notre démarche et je voyais les réactions incroyables autour de nous. Et ça m'a énormément boostée, c'était comme un cadeau. Alors qu'avant, j'avais très peu de personnes avec qui je pourrais partager la vérité totale de mes choix. Et là, je me retrouve avec une centaine de personnes qui sont là en train de nous applaudir et de nous remplir d'amour pour ce dernier jour de grossesse, finalement. Il y avait notamment aussi un photographe, donc on a des photos, les toutes dernières photos de nous dans un contexte social pendant que notre fille était en train d'arriver. Et vite, en fait, pendant le barbecue, moi, je commençais à sentir de plus en plus de contractions. En après-midi, il y avait des moments où je m'éloignais du groupe pour aller souffler. Je ne pouvais pas trop parler. Mais après, je revenais. Et les gens étaient assez surpris. Ils me disaient, mais c'est vraiment ça, mais non, c'est ça, t'es en train d'enfanter. Ça y est, ça a commencé. Je disais que oui, je pense que... Enfin, je voyais que ça avançait avec le temps. Elles étaient étonnées de pouvoir voir ça en vrai. Parce que c'est tellement un moment qu'on... Soit on vit à deux, soit on vit avec des médecins à l'hôpital, mais c'est pas un événement de tous les jours où les autres puissent participer et voir une femme qui est sur ce chemin-là, mais qui peut encore participer dans la conversation et dans la vie. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. On est parti, je me souviens, tard l'après-midi, à un moment donné, j'ai dit à Bart, là, il faut qu'on y aille, je commence à avoir froid. Je savais que la chaleur est clé pour toute la cascade d'hormones et pour me sentir bien. lui qui voulait dire au revoir à tout le monde. Donc j'ai dû le tirer un peu, genre, ok, là, on y va. Là, c'est intense. Là, il faut qu'on rentre à la maison. On avait encore 20-25 minutes de chemin aussi à faire en voiture. Mais on est parti avec énormément de chaleur de cet événement. Ils avaient aussi un groupe WhatsApp où ils nous demandaient comment, enfin, ils voulaient savoir comment ça allait après, si bébé allait arriver dans les heures qui suivent, etc. Donc on a reçu vraiment le plein d'amour de ce groupe. Mon homme était content qu'il a pu aller à son événement et on rentre à la maison. Il est 10h du soir et je lui dis, là, essaie d'aller te poser, d'aller dormir. J'ai essayé de faire la même chose. J'étais consciente aussi que, pour moi, une des choses qui foire, si tu veux, quand un enfantement dure, c'est le mental. Et le fait qu'on n'est pas préparé pour une durée normale. Parce qu'à l'hôpital, on va intervenir plus tôt, je ne sais pas après combien d'heures, on va nous dire qu'on est en retard, qu'il faut que ça avance, qu'il faut faire quelque chose pour que ça bouge, etc. etc. Alors que moi, je savais que dans un contexte 100% physiologique, ça pourrait durer des journées entières, et j'étais préparée pour ça, mentalement. Et donc j'ai dit à Bart, tu vas te coucher, je vais essayer de faire la même chose si je peux. Lui, il a pu dormir quelques heures. Moi, c'était impossible. Je me posais dans le lit et à chaque contraction, c'était comme un fil électrique, un choc électrique dans mon corps. Il fallait que je marche et que je respire. C'était la seule chose qui marchait. Et donc... j'ai décidé de suivre ça. J'ai laissé Bart dormir. J'étais dans la pièce d'à côté. Et j'ai continué comme ça toute la nuit. Et c'était vraiment trop, trop, trop chouette. J'avais espéré de pouvoir vivre une partie de l'enfantement la nuit. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique quand la ville dort, que t'es en travail avec ton bébé. Tu te sens seule à l'univers, mais en même temps tellement... tellement soutenu, c'est magique. Enfin, je me souviens que je pensais aux étoiles, que les étoiles étaient là pour nous parce que mon bébé était quelque part dans l'univers et allait venir dans mes bras dans quelques heures ou dans quelques jours. Donc, je me sentais un petit peu flotter comme ça dans l'univers entre les étoiles pendant la nuit. Et je faisais entre contractions, je faisais un peu de numérologie, je ne sais pas d'où ça m'est venu, je ne connais rien en chiffres ni astrologie, mais on était donc le 23 juillet, et je sentis que notre bébé allait naître le 24 juillet, parce que Bart est né le 6 janvier, moi je suis née le 12, donc 6 et 6 ça faisait 12, 12 et 12 ça faisait 24. Et j'ai senti que ça allait être le jour où on allait avoir notre bébé, donc le jour d'après. Les heures sont passées comme ça pour moi. Je ne calculais pas les intervalles entre les contractions ni rien. Je le vivais juste. J'essayais de temps en temps de peut-être prendre la balle, voir comment c'est, si je fais ci ou ça, mais... si ça n'allait pas, je le faisais pas. Je faisais ce que mon corps me demandait, ce qui était marcher, souffler dans le couloir et après m'asseoir. Et vers 5 heures du matin, c'était assez intense. Et j'avais envie d'une petite pause. Je commençais à me fatiguer, à être debout. Les autres positions ne m'arrangeaient pas trop. Et je voulais être dans l'eau. Je réveille Bart. Je lui demande d'abord remplir notre baignoire, parce qu'on a une baignoire à la maison aussi, avant de remplir la piscine. Parce que je me disais, voilà, ça peut encore prendre longtemps, je voulais pas que la piscine refroidisse. Donc c'était d'abord baignoire. Je me mets dans la baignoire. Et là, presque tout de suite, je sens que mon bébé s'apaisait. Mais je ne l'ai pas forcément pris comme ça au tout début. J'ai eu un tout petit peu peur parce que mon seul focus pendant l'enfantement, c'était on travaille ensemble. Elle est avec moi, je vais la sentir bouger, pas tout au long, mais je savais qu'elle allait rester active. Je savais que pour un bébé, c'est aussi un marathon. Je savais qu'eux aussi, ils travaillent hyper dur pour naître, que c'est pas que la maman qui fait le boulot. Et comme j'avais pas de monito, je n'avais aucune information, mon information à moi, c'était « Bébé, t'es là, t'es avec moi, on fait ça ensemble, je te sens et on y va. » Alors dans l'eau, ça m'a mis quelques doutes, parce que d'un coup, je la sentais plus. Mais je pense qu'elle prenait sa petite pause. Mais ça m'a fait un petit peu peur. Je me souviens être dans l'eau et me dire « Est-ce que c'est normal ?» Qu'elle arrête de bouger, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai perdu le bouchon de queue, qui était énorme et pas ce que j'avais vu la veille. Et c'était le moment pour Bart de venir me rassurer en fait. Moi qui tenais bien le coup pendant toute la grossesse, je lui dis que j'avais ces doutes-là. Et là, lui, il était hyper, hyper confiant. Il m'a dit que probablement, l'eau lui faisait du bien. Elle m'a demandé comment j'allais, moi. Et je lui ai dit, c'est quand même plus confortable d'être ici, tu sais, que des bouts. Et donc, il m'a dit, t'inquiète pas, ça doit être ça. Pose ta main sur ton ventre et demande à bébé si... S'il va bien, et tu le sauras de toute façon, tu as toute cette connexion-là, tout ce temps-là, tu auras ta réponse. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que je pourrais m'effondrer si je le voulais et qu'il allait être là, qu'il avait la confiance finalement. C'est venu au dernier moment peut-être, mais qu'il avait toute la confiance qu'il fallait en moi et à ce bébé. Et c'était très, très, très important. Par la suite, donc, à un moment donné, je sors de la baignoire, parce que je l'ai trouvée étroite et tout, et les contractions reprennent, je commence à ressentir bébé, je me rassure que c'était bien l'eau qui faisait qu'elle était plus calme. Et vers 7h du matin, Bart me pose la question si c'était le moment d'appeler Pimprenel, mais aussi de lancer... On avait un groupe WhatsApp avec les amis qui avaient été présentes pendant ma Blessing Way, et notre famille et quelques amis très proches qu'on voulait inviter dans notre espace. On avait aussi... offert des bougies à tout le monde pour qu'ils puissent être là pour nous. Et Bart était le gérant de ce groupe. Donc il me pose la question si je voulais qu'il lance le message dans le groupe, que je suis en train d'enfanter déjà et qu'ils peuvent allumer leurs bougies. Et moi, mon avis, c'était qu'il était toujours tôt. Je sentais que bébé était haut dans mon ventre. Je n'avais aucune idée de dilatation, mais je ne sentais pas mon col différemment que les jours d'avant. Et j'avais cette idée en tête que ça peut durer très longtemps, que je ne voulais pas mettre des attentes trop tôt, ni à moi, ni à personne, ni à ma famille, pour pas que le moral... ne tiennent pas jusqu'au bout. Je voulais vraiment attendre, mais je lui dis, écoute, ce groupe, Pimprenel aussi, et ce groupe, ils sont là pour toi aussi, ils sont là pour nous. Moi, je suis de l'avis que c'est tôt, mais si toi, tu as besoin de ce soutien, tu lances. Et si toi, tu as besoin que Pimprenelle vienne, tu l'appelles. Donc, il a fait. Il a senti, il a fait. Et je commence à recevoir les photos des bougies qui avaient voyagé dans presque tout le monde. Parce que j'avais aussi une amie qui était aux États-Unis, une amie qui était en Slovaquie, ma famille en Grèce. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ont senti le besoin de nous partager une photo de cette bougie qui brûlait avec eux, qu'ils avaient pris avec eux en vacances, plusieurs. Donc, je commençais à recevoir ces magnifiques photos des bougies devant des lacs en Pologne. Et j'ai vraiment senti tous ces gens-là qui étaient avec nous. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Parce que nous, on avait fait le choix d'être seuls, mais finalement, je me sentais pas seule du tout, mais du tout, du tout. C'était aussi le moment où on a rempli la piscine et je demandais à Bart de me lancer j'avais une playlist d'accouchement avec notamment des chansons que j'aimais bien. Mais aussi, j'avais demandé à des amis qui rajoutent des chansons dedans, que ça allait être une surprise un peu sur le moment. Et la première chanson, donc c'était aléatoire, c'était l'application qui choisit. J'ai dit à Bart de lancer la musique. Et la première chanson qui joue, par hasard, c'était la dernière chanson qu'on avait dansée pendant le dernier cercle de femmes enceintes avec Roxane et toutes les filles. J'ai toujours des frissons quand je raconte ça, mais voilà, moi avec les images de mes bougies, la première chanson qui était la chanson que j'ai dansée avec toutes ces femmes qui m'ont accompagnée pendant tout ce cheminement, je peux te dire, j'étais vraiment pas seule. Il y avait l'énergie de chaque personne dans mon espace, j'étais émue, Bart aussi. Il me disait qu'il comprenait pourquoi on devrait le vivre comme ça. Il me remerciait d'avoir insisté qu'on le vive comme ça. Il me disait qu'il voyait des images des dieux autour de nous, des ancêtres autour de nous, de son grand-père qui allait être fier de nous. Et là, on s'est lancé, on a passé quelques heures avant que Pimprenelle arrive. C'était presque, j'ai envie de dire, c'était presque chamanique. C'était un peu entre deux mondes. Lui, il était beaucoup là, mais j'ai l'impression aussi que je passais du temps seul. Alors, il va peut-être me dire qu'il n'a jamais quitté mon côté, c'est possible, mais je me sentais comme ça, comme s'il y avait des moments où j'ai fermé les yeux et j'ai voyagé toute seule. Et après, je regardais, il était là, il m'apportait à boire, à manger. J'ai pas pu manger, mais il me proposait quand même régulièrement. Et il me demandait s'il pourrait faire quelque chose pour moi ou il restait juste dans l'observation, dans le silence. Il avait souvent les yeux, enfin les larmes aux yeux. Je voyais que c'était un moment très très beau pour lui aussi. Je pense qu'à ce moment, j'ai passé pas mal de temps dans la piscine quand Pimprenelle est arrivée. Je me souviens de penser, oh, j'espère qu'on l'a pas. On ne lui a pas demandé de venir trop tôt, sachant qu'elle a deux filles aussi à la maison. Je ne voulais pas non plus qu'elle traîne 3 jours chez nous. C'était pas le plan non plus. Mais très vite, les choses ont changé. Elle arrive, j'ai pu lui raconter le jour d'avant, mon pré-travail, à quel point c'était drôle d'avoir des contractions pendant le barbecue. Et vite après, il y avait plus trop de communication de ma part. Donc vite après, j'étais vraiment partie dans ma bulle. Je commençais petit à petit à vocaliser aussi, ce qui était très intuitif. Je faisais des sons qui me faisaient du bien quand ça venait de moi et de mon corps. Parfois, je chantais un petit peu les chansons qui passaient. Et parfois, Il y avait des moments déjà où mon corps poussait petit à petit. Et là, je pense que c'est soit moi, soit Pimprenel qui m'a proposé si j'avais envie de changer des positions, si j'avais envie de sortir, s'il faisait froid dans la piscine. Ce qui était le cas, donc j'ai dit ok, on y va. Enfin, j'ai un peu marre d'être dans l'eau, on sort un petit peu. Et le premier passage aux fameuses toilettes était mais d'une intensité indescriptible. Tout de suite, dans les toilettes, mon corps a commencé à pousser. J'étais presque pas préparée du tout pour une douleur aussi forte, alors que j'étais plutôt chill, plutôt ok dans la piscine, etc. D'un coup, dans les toilettes, c'est comme si j'allais avoir bébé dans 3 secondes, quoi. Et Pimprenel qui me confirmait la dilation station, les toilettes, on les appelle comme ça, et qui me rassurait que c'était bien, que je sentais cette poussée-là, que c'était normal, etc. Mais moi, je me souviens lui dire que j'étais pas du tout prête pour accueillir ça, j'avais envie que que ça aille plus progressivement que ça et pas d'un coup. On a essayé du coup d'aller dans la chambre, voir si je pourrais m'allonger, si j'avais espéré quelque part que j'allais avoir une phase de quiétude. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de dormir, je pense. Et je me disais, ça va venir, à un moment donné, tu vas dormir. Bon, finalement, c'est pas venu du tout, mais j'avais ça en tête, je me disais, peut-être, je tente. Donc on a un peu tout essayé, voir ce qui me faisait du bien et pas. Il n'y avait pas énormément de positions où je me sentais bien. Mais tout était gérable en dehors des toilettes. Ça s'intensifiait, mais d'une façon que j'arrivais à suivre. Et donc on est resté un petit peu sur le lit, sur le ballon. Bart, il a essayé de masser un petit peu le dos. Il me demandait comment ça allait, s'il y avait une pression que j'aimais bien, sur une partie spécifique, etc. On rigolait de temps en temps un petit peu. Et moi, à chaque fois qu'il y avait des contractions, c'était de plus en plus je vocalisais, de plus en plus j'étais partie. Mais entre contractions, j'arrivais quand même à avoir un petit peu de contact, demander qu'on me couvre, je me souviens, entre contractions, et puis quand il y avait la vague qui venait, j'avais chaud, je transpirais, donc c'était on me filait des couvertures et je les enlevais par après. J'avais aussi mon peigne déjà dans ma main. La liste, je pense, qui tournait en boucle, la musique qui tournait en boucle, et quelques heures après, je demandais à Bart de mettre plus d'eau dans la piscine, de la réchauffer. J'ai fait un deuxième passage dans la piscine où je sens exactement la même chose. Tout se calme, je passe des contractions où j'ai envie de pousser à des contractions où je vocalise à peine. Donc je sens que j'ai fait marche arrière et ça commence à devenir assez clair pour moi. Et c'est à ce moment-là que je demande à Pimprenel, elle m'observait beaucoup. Elle mettait pas des mots sur mon expérience, sur mon vécu, ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Mais elle a vu que j'étais en train de réfléchir à un moment donné. Elle m'a dit, tu penses à quoi? Et je lui dis que voilà, l'eau, ça me ralentit en fait. Je le sens. Elle m'a dit, tu veux faire quoi par rapport à ça? Je lui dis, je pense qu'il me faut de la gravité. Je pense qu'il me faut du courage pour sortir de cette piscine parce que ça devenait compliqué de faire les allers-retours dans les pièces différentes. Et elle m'a proposé de m'aider à sortir quand je serais prête. Donc elle ne m'a pas du tout forcée de sortir tout de suite ou la prochaine contraction. Elle m'a dit, quand tu le sentiras, tu peux compter sur moi, je peux t'aider, je vais t'aider. Et on fera petit à petit et on sortira de la piscine si tu le sens. Et c'est ce qu'on a fait, je lui ai dit, sous la condition que si on passe par les toilettes, c'est 3 contractions maximum. Donc j'ai négocié avec elle parce que j'étais complètement incapable de sortir des toilettes. C'était trop intense et je ne trouvais pas mon confort non plus là-dedans parce que nos toilettes sont une pièce très étroite. Pimprenelle, elle venait avec moi, donc j'arrivais à avoir un appui sur elle vers l'avant. Mais c'était une pièce où, voilà, il n'y avait aucune place pour Bart. C'était pas du tout ma belle pièce d'hôtel. Le contraire, tout le contraire. Donc j'avais pas envie de passer du temps là-dedans et c'est pour ça que j'ai négocié. On passe par les toilettes parce que ça avance bien le truc, mais on compte 3 contractions et on part de là. Donc on a fait ça, on va dans la chambre à nouveau et là j'avais à nouveau aucune position qui me faisait du bien sur le lit. J'ai essayé de me reposer, ça n'allait pas et je me suis dit ok, je tente d'aller dans notre salle de bain où il y a une douche aussi pour essayer de voir si je pourrais me mettre accroupie ou voilà sur une fente, voir ou même debout, prendre une douche, aller essayer là-dedans en tout cas. Je me souviens aussi qu'à ce moment-là, c'était le moment de désespérance pour moi. Parce que même si je regardais pas forcément l'heure, j'avais quand même le ressenti que ça faisait bien quelques heures que Pimprenelle était là. J'avais toujours pas percé la poche des os. Mon bébé était assez haut, je la sentais pas engagée dans mon bassin. Niveau dilatation, je ne sentais pas grand-chose dans mon col. J'avais pas mis mes doigts, ça m'est pas venu naturellement, donc je l'ai pas fait. Ni j'ai mis de miroir, c'était des idées que j'avais avant, c'était des propositions que... Enfin, du matos que j'avais autour de moi, mais sur le moment, ça m'est pas venu. Et c'est à ce moment-là que je demande à Pimprenelle, littéralement, je lui dis, cette putain de ligne rouge, la ligne qu'on a au niveau du coccyx, qui indique aussi le niveau de dilatation, je l'ai toujours pas, hein. Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, non, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que tu peux pas passer de 0 à 10 dans la demi-heure qui vient. Parce que moi, je pensais, ok, si j'ai pas dilaté, et là, ça fait une bonne journée que je suis en pré-travail et vrai travail, et que si par après, je dois dilater complètement, ça va peut-être prendre encore 3-4 jours, ben, je tiens pas. Donc, c'était la fameuse phase de désespérance. Et c'est là, à nouveau, où Bart a vraiment joué son rôle. Il a vu que je commençais à avoir des doutes, que je commençais à être fatiguée, que je sentais surtout qu'il n'y avait pas de progrès très facile à très concret, quoi. Donc là, il m'a arrêté et il m'a dit « Il te dit quoi, bébé ?» Et je me souviens d'avoir posé mes mains sur mon ventre, d'avoir fermé les yeux pendant quelques secondes, minutes. Et j'ai commencé à pleurer. Et je lui ai dit que bébé me dit d'être patiente, mais je ne veux pas entendre ça. Et donc, on avance, on va vers la douche. Je trouve une position sur 4 pattes. Avec beaucoup de soutien pour mes genoux, du coup. Les poussées sont vraiment... l'intensité pour moi, c'est vraiment du 10 sur 10 à ce moment-là. Et vite, je perds les os. Donc là, gros soulagement. Au moins, il y a quelque chose qui avance. Et je peux le voir, je peux le sentir. Il y a quelque chose qui se passe. C'est bien. Donc le moral y est, j'ai trouvé à peu près une position qui me convient, c'est-à-dire j'ai pour le moment Bart devant moi assis sur la baignoire et moi je suis sur quatre pattes dans la douche et je m'accroche sur lui, je penche vers l'avant, notre chienne est juste à côté de nous dans la salle de bain et Pimprenelle est proche aussi. Donc Pimprenelle pendant tout ce temps-là, elle était là quand on le voulait. Elle proposait aussi à Bart de prendre une pause s'il le voulait, de peut-être sortir la chienne elle-même. Finalement, c'est Bart qui l'a fait. Elle est restée avec moi. Mais elle était très fluide dans l'espace. Je sentais aucune énergivore, le contraire. Quand j'avais besoin d'elle, je tendais ma main, elle venait. Et pour le reste, j'avais l'impression vraiment qu'elle me laissait toute la place dont j'avais besoin. Et donc là, dans la salle de bain, je commence vraiment à vocaliser un maximum les contractions hyper intenses. Je disais à Bart que là, je n'imagine pas comment ça puisse devenir plus intense que ça. Je pensais être à l'intensité maximale. Et Pimprenelle m'aidait à me souvenir que de me détendre les mâchoires, à essayer de ne pas crisper le visage pour que le col puisse s'ouvrir. Elle vocalisait avec moi à la fin, elle faisait des gros « ah » pour que je relâche ma bouche. Et moi, à la fois, je lui disais « oui, ah, mais ah, ça fait mal aussi, tu sais, j'essaie, je fais de mon mieux et tout ». Et puis vite après ça, c'est elle qui a pris la place de Bart et Bart est venu derrière mon bassin. Instinctivement, il a pris le rôle de essayer d'aider mes ischios à ouvrir et mon bassin à ouvrir. J'étais déjà dans une position qui favorise ça, mais apparemment il voyait bien que pendant chaque contraction, mon bassin s'ouvrait et que après, à la fin, à la fois avec mes mâchoires et mon corps en entier, je refermais tout et je recontractais tout. Et donc, il a senti de le faire. Donc, il aidait mes ischions manuellement à rester ouverts. Et quand il faisait ça, moi, je pourrais m'appuyer sur lui pendant la contraction et ça me faisait énormément de bien. C'était la première fois où quelque chose me faisait du bien. Le reste, c'était plus ou moins OK ou pas OK. Mais ça, c'était vraiment, ça me soulageait, le fait qu'il porte mon poids pendant la contraction. Donc, on avait trouvé un petit peu notre position de succès, on va dire, où tout le monde allait bien. Moi, je demandais à Pimprenelle si elle n'allait pas finir sourde parce que je criais dans ses oreilles avec chaque contraction. Elle me disait que tout allait bien. Je m'accrochais à elle, je lui disais « je vais te faire de bleu et tout ». Elle me disait « non, mais t'inquiète pas, fais ton truc ». Je sentais Bart derrière qui avait les bras qui tremblaient tellement il avait porté mon poids tellement de fois. Avec toute l'intensité qu'il y avait. Donc, je vérifiais avec lui. Il me disait, mais non, c'est toi qui fais un travail immense, là. Tu ne penses pas à moi. Mais en même temps, je sais qu'il avait des crampes et tout, mais il ne voulait rien dire parce que, voilà, c'était la bonne position pour nous tous. Et j'ai envie de dire aussi que la vraie poussée a duré au moins 3 heures. Et on entend souvent, même si ça dépasse une heure, que c'est assez exceptionnel, que c'est assez long. Moi, à partir du moment où j'ai percé la poche, j'étais vraiment à une intensité maximale et ça a duré encore, avant que la rotée naisse, ça a duré 3-4 heures. Les contractions l'une après l'autre, donc là, la phase de quiétude que j'ai jamais eue, personne ne bougeait, de la consolation qu'on avait. Pimprenelle devant, Bart derrière, moi au milieu, le peigne dans la main, et on allait jusqu'au bout, quoi. Et donc, à un moment donné, j'entends Bart dire qu'il a commencé à avoir la tête venir. Et à ce moment-là, je dis à Pamprenel, « The Ring of Fire !» Ah, c'est ça ! Bart qui n'avait jamais entendu cette expression, qui se demandait, mais elle parle de quoi ? Lord of the Rings ? Enfin, j'ai pas... Il pensait à un truc... Enfin, il me disait, mais c'était quoi ce truc que t'avais dit à Pamprenel ? Nous, on s'est comprises toutes les deux. C'était le fameux cercle de feu que je sentais avec beaucoup de... Enfin, à la fois, ça me faisait très, très, très mal. Mais, ouf, c'était aussi un soulagement. C'était aussi... bébé descendait, elle était là, elle était presque prête. Donc, ça faisait quelque part du bien aussi, mais c'était affreux niveau douleur. Je me souviens la brûlure. Et je me souviens aussi, ça, j'oublierai jamais. J'ai commencé, pendant les contractions, à sentir la tête qui sortait petit à petit. Mais pas assez pour qu'elle reste. Et donc j'ai eu peut-être 3-4 contractions où la tête sortait un petit peu plus à chaque fois, mais à la fin de la contraction, bébé était toujours dans mon bassin. Et ça, c'était le plus douloureux que je peux imaginer, en fait, parce que je l'ai vécu presque comme... Tu vois les grosses portes en bois qu'on a dans les fermes, qui ferment d'un coup comme ça. Elles sont souvent aussi lourdes, donc tu les pousses pour les ouvrir, et puis à la fin de la contraction, c'était schlac, et ça revenait à l'intérieur de moi, et je savais qu'il fallait passer par cette même douleur la prochaine fois, et que je n'étais même pas sûre que la prochaine allait être la bonne. Et donc à ce moment-là, à nouveau, Bart au sauvetage, parce que j'ai dit... Ok, la prochaine contraction, c'est moi qui pousse. Cette tête, elle va naître. Et là, pauvre Bart, alors que je lui reprochais beaucoup de ne pas avoir étudié autant que moi tous les livres de grossesse, etc. Mais il a quand même retenu un épisode de podcast, une femme qui disait que tout allait bien jusqu'à la fin, mais au moment de la poussée, elle s'est désespérée et elle a poussé par elle-même à la fin de la contraction. Elle s'est déchirée. Et bon, elle a eu une grosse déchirure après la naissance. Et donc là, Bart me dit, non, souviens-toi de ce podcast, de cette femme qui a raconté ça, là, là, là. Donc il me raconte toute l'histoire. Et je fais, punaise, il a raison, encore une fois, non, fais chier, enfin, j'ai pas envie. Mais je le suis quand même. Il m'a convaincu qu'il m'a aussi dit, si ton corps a besoin de prendre ce temps-là, c'est important qu'il le prenne, il faut que tu lui fasses confiance, ne pousse pas toute seule, je vois le progrès, je vois tout, enfin je vois millimètre par millimètre la tête naître, elle va être là, mais ne pousse pas toute seule. Donc on y va, je le suis, et puis prochaine contraction, la tête sort un petit peu plus, et donc on arrive... Elle arrive à se bloquer au niveau en dessous des yeux, si tu veux. Et là, j'entends Bart, je sens quand même le soulagement de « j'ai plus cette tête qui rentre à nouveau dans mon bassin ». Moi, j'ai cru qu'elle était complètement sortie, mais c'était pas le cas. J'entends Bart donc qui me dit « le bébé me regarde droit dans les yeux ». Donc, elle avait ouvert ses yeux et elle avait regardé son papa tout de suite. Je le sens complètement ému et tout. Mais la prochaine vague arrive. Donc là, il y a toute la tête qui naît. Bart qui me dit « je soutiens la tête ». Enfin, il a senti le besoin de soutenir la tête pour protéger notre bébé. Mais elle me dit, ne t'inquiète pas, le bébé respire, donc tout va bien, ne t'inquiète pas, tout se passe bien. Il est là avec ses mains, il attend, prochaine contraction, il y a Erotea qui naît dans ses bras. Il la prend tout de suite, il me la donne, il me dit, ah mais c'est une fille. Je lui dis, mais je le savais, je te l'avais dit tout au long. Pimprenelle glisse, s'éloigne, mais d'une façon vraiment, vraiment comme un chat. Je la sens pas du tout partir alors que j'étais accrochée à elle, le temps de me retourner, de prendre mon bébé dans les bras. Elle est quelques mètres plus loin que nous, pour respecter ce fameux golden hello qu'on dit en anglais, ce cercle précieux entre le nouveau-né et les parents. Moi, je me souviens trembler, pleurer. J'avais mon bébé dans les bras. Notre chienne est venue aussi nous rejoindre parce qu'elle avait entendu la nouvelle personne qui est arrivée au monde. Et on a d'ailleurs cette photo de nos premières secondes où Bart a notre chienne dans les bras. Moi, j'ai notre bébé dans les bras. Et où on est devenu une famille de 3, 4 avec notre animal. Et c'était que des larmes. Que des larmes. Héroté aussi a poussé son premier petit cri. Et puis de là, on s'est dirigé vers notre lit. Le placenta était toujours à moi. Ah, juste avant de partir, je vois Pimprenelle aussi qui pleure. C'est un moment un peu, on est tous perdus. Et après, elle fait « Ah non, mais merde, on n'a pas regardé l'heure !» Parce qu'il faut aussi déclarer l'heure de naissance. Elle regarde, elle me dit ben, « Ça te va si on dit 6h55 ça va à tout le monde ?» On fait « Bah oui, ça va. » C'était 6h55. On ne savait plus exactement, forcément. Mais on était tous tellement dans le moment que... Ça ne nous intéressait pas trop de regarder l'heure précise de son arrivée. J'étais me mettre au lit, j'ai eu tout de suite faim, on m'a couvert. Je ne me suis pas beaucoup inquiétée pour le placenta. J'ai pris une teinture mère que Pimprenelle avait, qui pourrait m'aider aussi. Juste par précaution, pour mettre les chances de mon côté, on va dire. C'était une plante, je n'étais pas du tout contre de la prendre. Elle m'a aussi aidée à faire téter Rothea, parce qu'elle était un peu agitée, elle essayait de prendre le sein, mais c'était pas évident pour elle, et Pimprenelle est aussi une consultante en lactation, donc ça fait partie de... Elle connaît le sujet très 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 bien. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rapprochée à nous, avec mon autorisation, ce que je trouvais vraiment magnifique. Elle nous a donné cet espace à nous, et puis elle est rentrée dans l'espace quand moi je lui ai demandé « Oui, viens vers nous, viens m'aider avec l'allaitement. » Là, j'ai pu allaiter Rothea. Je sentais que j'avais quelques contractions, mais elles n'étaient pas du tout de la même intensité qu'avant. Mais je savais que ça faisait partie de la délivrance du placenta, qui est arrivé. C'était pas 10 minutes après, mais c'était pas 2 heures après non plus, donc... Allez, on va dire dans l'heure qui a suivi la naissance. On n'a pas vraiment regardé, mais je sentis que j'avais cette petite contraction. Et puis, après avoir fait téter au théâtre, j'ai voulu quand même prendre une petite douche. Et le moment où je me suis mise debout, le placenta était déjà décollé, donc je n'ai pas dû tirer ni rien, il était juste là. Je sais que Bart et Pimprenelle, ils essayaient un petit peu de nettoyer. Moi, j'étais avec mon bébé. On m'avait fait une belle assiette de charcuterie, fromage, du lait cru. Et je me régalais parce que là, pour le coup, j'avais vraiment faim. Et c'est tellement... le contraste est tellement gros entre... la souffrance de la fin de l'enfantement et l'énorme shoot d'ocytocine et le soulagement, c'est comme si, en fait, au bout d'une heure, Je me souvenais plus de rien. Je me sentais juste trop bien avec mon bébé. J'avais aucun souvenir de cette intensité, de cette douleur que j'avais vécue. Et là, je me souviens que Bart et Pimprenel se faisaient des blagues. Bart, il avait peur, il avait entendu quelque part d'un ami qu'il devrait être préparé pour que je perde beaucoup de sang. Il avait préparé des bâches partout. À un moment donné, on avait des discussions parce que moi, je lui disais qu'il voulait convertir notre chambre en scène de Dexter. Tu vois, le serial killer qui met du plastique sur tout. Et finalement, c'était pas du tout ça. Il y avait du sang dans la douche, mais pas tant que ça. Donc, il jetait quelques serviettes qu'on n'allait pas laver parce qu'il y avait beaucoup trop de sang. Et Bart m'a dit, j'ai fait quand même sortir les poubelles parce que je peur si on me voit avec des poubelles remplies de sang demain, en plein jour, qu'on va me poser des questions. Donc je préfère les sortir maintenant. Il était un peu... il paniquait un petit peu de qu'est-ce qu'on avait pensé à des poubelles remplies de sang le lendemain. Et puis, il est rentré, il a fait un peu le rangement et il est venu se poser dans le lit avec nous. Pimprenel est parti. Et on était là juste émerveillés par ce qui s'est passé. On se disait que... On ne comprenait pas comment ça peut être autrement. Ça peut bien se passer autrement. Moi, je pourrais vraiment pas imaginer ce moment. Je me souviens que toi aussi, t'en avais parlé dans ton épisode où c'est intense et tu prends la voiture pour aller en maison de naissance ou à l'hôpital. J'entends que c'est un moment très, très compliqué pour les femmes et moi aussi, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible? Enfin, on n'aurait pas pu me sortir de ce vortex pour que je fasse le trajet pour aller quelque part. Et donc, voilà, on est resté comme ça, on se racontait toutes ces histoires de à quel point c'était incroyable ce qu'on avait vécu. On planait, on regardait notre bébé, on pleurait. On pouvait pas du tout dormir. Il était tard le soir, mais on était complètement réveillés par toute cette adrénaline qu'on avait dans le corps. Et là, il y a notre sage-femme qui arrive pour... on l'appelle et on lui dit que... Bébé est là, le placenta aussi, parce que c'était vraiment l'accord de que la naissance soit complète avant qu'elle vienne. Donc elle passe nous voir et je lui ai demandé aussi de regarder si j'avais une déchirure, juste parce que je lui faisais très confiance et j'avais pas envie d'aller regarder moi-même. Je sentais que ça allait, mais c'était bien aussi d'avoir sa confirmation. Je lui ai demandé aussi de regarder que le placenta était intact pour être sûr qu'il n'y avait pas un morceau qui restait parce que ça peut faire saigner parce que le corps est en train d'expulser ce qui reste. Le placenta était intact, mais à sa grande surprise, le placenta n'était pas entre guillemets normal. Donc elle était très très surprise parce que c'était la première fois qu'elle voyait un placenta marginal, apparemment ça s'appelle comme ça. Donc elle m'a expliqué ce que c'était et j'ai beaucoup aimé ce moment parce qu'en fait un placenta marginal, c'est un placenta dont le cordon ne s'attache pas au milieu mais il s'attache à la partie extérieure du placenta. Ce qui veut dire que il y a une chance en plus que pendant que la poche des os se perce, que le cordon perde la connexion avec le placenta aussi, parce qu'il n'est pas aussi protégé que quand il est au milieu. Ça voulait dire que si jamais ce scénario arrive, ton bébé il se retrouve sans source de vie immédiatement. Donc ça peut être très sérieux. Mais quand elle m'a raconté ça, j'ai pas du tout paniqué. Au contraire, j'ai commencé à pleurer parce que là, j'ai compris que j'ai perdu du liquide pendant 3 semaines. Et donc, ma poche n'était pas aussi remplie. Donc, ça n'a pas fait un gros splash au moment où je l'ai percé. Finalement, la poche ne s'est pas rompue même à l'attachement avec le cordon, donc tout allait bien. Mais je me suis dit, waouh, la nature est tellement bien faite. J'ai eu vraiment l'impression que ce bébé savait qu'elle voulait naître comme ça, qu'elle a tout fait pour nous protéger, même si le placenta, il était un peu atypique. Bah, tout le reste du processus était là pour veiller sur nous. Et surtout, je ressentis que si jamais j'avais fait cette échographie pour exister dans le système, je serais partie avec, entre guillemets, des nouvelles inquiétantes. Et je ne sais pas quel aurait été notre cheminement à partir de ce moment-là.
Pendant le postpartum, physiquement, je me sentais assez bien.
J'avais pas eu de déchirures. Et je me souviens que la seule chose qui me faisait très mal, c'était ma gorge enflammée, d'avoir autant crié. Mais à part ça, tout le reste allait très très bien. Malheureusement, Bart est tombé malade le jour après la naissance de notre fille. Ce qui a fait que la première semaine était compliquée pour moi. J'ai dû gérer notre chienne et un Bart qui était vraiment très 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 malade. Et on ne s'y attendait pas, donc on ne s'était pas trop préparé à ça. Mais heureusement, on avait un congèle rempli de la nourriture. Mais voilà, pas beaucoup d'aide par rapport à... Surtout à notre chienne et à la maison qui allait apporter à manger à moi, parce qu'elle était vraiment pas bien. Et puis aussi un bébé qui avait très besoin d'être bercé, de s'endormir en mouvement. Donc très vite, moi j'ai dû la mettre en portage et l'endormir comme ça. Mais ça m'allait plutôt, parce que physiquement, j'allais bien, j'avais une ceinture que je voulais utiliser pour mon bassin, mais c'était plus contraignant qu'autre chose de la mettre. J'ai pas vraiment ressenti le besoin. Et voilà, je suivais un petit peu mon corps. J'ai envie de dire, forcément, si Bart avait été OK, j'aurais pris un petit peu plus de repos, juste parce que c'était tout frais, mais pas parce que j'étais incapable de faire ce que je faisais. Et du coup, mon plan de rester 40 jours au lit, je voyais depuis le début que ça n'allait pas du tout être ça. Pas que parce que ça allait être compliqué pour moi aussi, mais parce que notre bébé avait besoin d'être porté et on ne pouvait pas juste l'endormir dans nos bras, dans le lit. Voilà, ça m'allait plutôt comme ça. J'ai envie de dire que une grossesse et un enfantement, c'est une énorme, énorme, énorme opportunité. Et on a tous et toutes, je parle d'autant pour les papas que pour les mamans, tout ce qu'ils font en nous pour... crée de la vie. On est fait pour ça, en fait. Et ce serait idiot de ne pas pouvoir accomplir ça et l'amener jusqu'au bout. Ce serait quelque part un échec de la nature si on arrivait à concevoir, mais qu'on n'avait pas les outils pour mettre nos bébés au monde par nous-mêmes. Maintenant, je ne dis pas que ce chemin est pour tout le monde, mais je vois tellement de couples qui se sentent incapables de juste vivre ces moments en joie et être heureux. Je ne dis pas être seul pendant l'enfantement, mais juste de se dire qu'on mérite de vivre ça pleinement, que c'est juste dommage. C'est pas pour les chanceux. Et d'ailleurs, une des phrases qui m'ont marqué le plus pendant cette grossesse et enfantement, ça vient d'un livre de Glennon Doyle. Elle dit, je le dis en anglais, j'essaie de traduire, « The braver I am, the luckier I get. » Donc, au plus on est courageux, au plus, entre guillemets, on a de la chance. Mais pour moi, c'est pas de la vraie chance, c'est le courage qui fait que on arrive à accomplir les choses. Et donc voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, de se faire confiance. Parce que moi aussi, je pensais que je n'étais pas capable d'avoir une grossesse pareille, un enfantement pareil pour une toute première fois. Mais finalement, oui, on peut le faire. On peut le faire tous et toutes si on prend le temps de s'écouter. Et si on prend moins de temps à écouter les autres, la société, l'extérieur en fait. L'intuition est quelque chose de vraiment merveilleux. Mais on doit lui laisser la place.
Magnifique conclusion. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Si ce n'est merci, merci Christina pour ce témoignage d'une grande générosité. Je sais pas, j'ai le mot généreux qui vient parce que bah, déjà tu as passé beaucoup de temps à parler, à transmettre ton témoignage. Et aussi j'ai envie de souligner la façon dont tu le fais, que je trouve très, très humble, je trouve. Rempli d'humilité, de... Voilà, je te dis ce que je ressens, mais vraiment, c'est comme si ton témoignage, il émane de toi, en fait. Il émane de toi, il n'y a pas de réflexion sur comment je vais le dire, tu vois, tout ça. Il y a quelque chose de fluide, très naturel, et c'est extrêmement agréable à écouter. Et donc, je pense que je réécouterai souvent ton témoignage, et j'espère qu'il va voyager, qu'il va soutenir, qu'il va nourrir la confiance des autres couples, Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.